Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. L'espérance en Jésus fait traverser les nuits les plus sombres. Ceux qui croient en la résurrection sont des tisseurs de bien et savent avec certitude qu'aucune défaite ni aucune mort n'est éternelle. Le pape l'a affirmé lors de l'audience générale de mercredi 8 mai. L'actualité politique et sociale en Afrique concerne la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et l'Égypte, entre autres. La deuxième partie de ce programme est consacrée à l'invité du jour, l'abbé Steve Gaston Bobongo, doyen de la faculté de philosophie de l'Université catholique d'Afrique centrale. Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme et que nous commençons avec l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-José Moindo.
Poursuivant son cycle de catéchèses sur les vices et les vertus, le pape a proposé mercredi 8 mai une réflexion sur l'espérance qu'il a qualifiée de vertu du cœur jeune. Si l'espérance manque, toutes les autres vertus risquent de finir en cendres, une grâce essentielle au salut et dont le monde a tant besoin, indique François, les détails avec Delphine Allaire.
Que vais-je devenir? Quelle est la destination du voyage? Quel est le destin du monde? Autant de questions auxquelles seule l'espérance peut apporter une réponse, indique d'emblée François, citant son prédécesseur Benoît XVI, auteur en 2007 de l'encyclique Spe Salvi, où il rappelait que le présent ne devient vivable que lorsque l'avenir est certain en tant que réalité positive. Cette espérance qui sauve donc, selon Paul aux Romains, n'est toutefois pas due à nos propres mérites. Elle est donc venue de Dieu, rappelle François, alertant sur le péché contre l'espérance dans les nostalgie, mélancolie ou autre découragement. Quand l'automne annule en nous le printemps, dit joliment le pape, constatant combien le monde a tant besoin d'espérance aujourd'hui, mais aussi de patience.
Anche quando intorno a sé molti hanno ceduto alla delusione, chi è animato della speranza ed è paziente è in grado di attraversare le notti più buie.
Même lorsque beaucoup ont succombé à la désillusion, celui qui est animé par l'espérance et qui est patient est capable de traverser les nuits les plus sombres, assure l'évêque de Rome, considérant l'espérance comme vertu de qui a le cœur jeune. Pas une question d'âge, mais de cœur, soutient-il, mettant en avant Siméon et Anne, deux personnages bibliques âgés, aux yeux pleins de lumière et donc pétris d'espérance.
Au terme de l'audience générale du mercredi 8 mai, le pape a rappelé qu'en ce jour, l'Église élève la prière de la supplique à Notre-Dame du Rosaire de Pompéi. François a invoqué l'intercession de la Vierge Marie afin que le Seigneur accorde la paix au monde entier, spécialement aux pays victimes de guerres et de conflits. Le pape a reçu en audience dans la journée de mercredi les participants à la consultation « Le soin, c'est du travail, le travail, c'est du soin » du dicastère pour le service du développement humain intégral. Dans le message qu'il leur a adressé, le Saint-Père a souligné leur partenariat avec l'Organisation internationale du travail, des conférences épiscopales, des congrégations religieuses, des organisations d'inspiration catholique et d'autres confessions, des syndicats et autres groupes de base de la société civile engagés dans le projet « L'avenir du travail, le travail après Laudato si ». Au cours des 6 dernières années, vous avez mené des réflexions, des dialogues et des recherches proposant des modèles d'action innovants pour un travail juste, juste et digne pour tous les peuples du monde. François les a encouragés à construire une communauté mondiale transformatrice utilisant la méthode du discernement social commun. Il est nécessaire, en effet, de mettre en commun toutes nos ressources personnelles et institutionnelles, de commencer une lecture adéquate du contexte social dans lequel nous évoluons en essayant d'en saisir le potentiel et en même temps de reconnaître à l'avance les maux systémiques qui peuvent devenir des fléaux sociaux. En ce qui concerne l'année sainte 2025, la coutume veut que le jour de l'ascension de l'année précédente, le jubilé, le pape signe la bulle qui indique ses dates de début et de fin. Le jeudi 9 mai, solennité de l'Ascension, François préside en la basilique Saint-Pierre la présentation et la lecture de la bulle qui annonce la date exacte du début du jubilé 2025 ainsi que la date de fin. La cérémonie se déroulera dans le cadre des deuxièmes vêpres de la solennité de l'Ascension du Seigneur. L'actualité de l'Église nous conduit au Burkina Faso où Paul Da nous fait part de l'assemblée plénière extraordinaire de la conférence épiscopale Burkina-Niger qui s'est tenue du 5 au 8 mai au Centre national Cardinal Paul Nzougrana à Ouagadougou.
Monseigneur Laurent Dabiré, évêque de Douri et président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, dans les motivations de la tenue de cette assemblée.
Cette assemblée plénière extraordinaire a été décidée en février à l'assemblée plénière sur les questions pastorales pour compléter l'information des évêques sur la situation nationale afin de pouvoir apporter notre contribution en termes de réflexion et d'accompagnement de nos autorités et des populations qui vivent une situation très difficile.
Que retenir de l'objet principal de cette assemblée, Monseigneur Laurent?
Les évêques ont relevé que la situation nationale s'améliore d'une part à travers des victoires d'une force de défense de sécurité, les VDP, sur le terrain, et même quelques retours de personnes déplacées. Mais on constate aussi une recrudescence ici et là où le terrorisme semble ne pas faiblir. Cette situation est source de souffrance pour nos populations, de grosses dépenses pour l'État qui doit investir des moyens importants d'entretien des hommes, d'équipements. Et donc cela nous a permis de comprendre mieux la situation et de pouvoir adresser une parole d'espérance et d'encouragement à notre peuple.
Pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Commençons l'actualité politique et sociale sur le continent africain avec les présidentielles au Tchad. Le parti du premier ministre tchadien Succès Maxra, candidat à la présidentielle de lundi, a dénoncé mercredi des violences et menaces graves contre lui et ses partisans, ainsi que des fraudes lors du dépouillement, appelant le peuple à défendre sa volonté exprimée dans les urnes. Le président du Sénégal s'est rendu mardi en Côte d'Ivoire pour une visite officielle. Après la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau, Bassirou Diomaye Faye était au bord de la lagune Ébrié où il s'est entretenu avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Les deux hommes ont fait le point sur la coopération bilatérale entre leurs deux pays. Ils ont également et surtout évoqué les questions régionales au moment où la zone CDAO traverse une turbulence. Écoutons Bassirou Diomaye Faye aux côtés d'Alassane Ouattara.
Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont un rôle important à jouer dans la consolidation des acquis en matière d'intégration de notre espace, malgré les turbulences que connaît la zone. J'ai reçu de vous des conseils avisés, des pistes de solutions qui doivent être explorées pour qu'on puisse renforcer à nouveau l'union dans les grands ensembles régionaux et sous-régionaux que nous avons en partage. Et je suis persuadé que nous devons continuer d'agir dans la solidarité au sein de l'espace CDAO, de faire les réformes nécessaires et d'œuvrer à dissiper les incompréhensions qui ne peuvent manquer de survenir. Les ressources sont là, la volonté politique est là, vous l'avez exprimé. Et c'est cela qui contribuera au renforcement de l'unité, de la cohésion et de la souveraineté de la CDAO, qui est un outil formidable d'intégration qui a tout le temps été cité en exemple et que nous gagnerons à préserver. Et je sais votre engagement à aller dans ce sens-là.
Propos recueillis par Mohamed Lamine. Les autorités égyptiennes enquêtent sur la mort d'un homme d'affaires israélo-canadien tué dans la ville côtière d'Alexandrie. Résident permanent du pays, il a été abattu mardi, a déclaré la police égyptienne dans un communiqué. La victime est un homme d'affaires possédant la double nationalité canadienne et israélienne, a pour sa part indiqué le ministère israélien des Affaires étrangères. Les croyants sud-africains avec leurs responsables religieux apportent leur soutien spirituel aux familles des victimes d'un effondrement d'immeubles lundi à Georges. Mardi, ils se sont rendus à la mairie pour prier et réconforter les familles des disparus. Dans la nuit de mardi à mercredi, les secouristes ont retrouvé deux autres personnes vivantes. Après 48 heures sur les 75 personnes qui se trouvaient dans le bâtiment au moment de son effondrement, 36 ont pu être retrouvées. Les secouristes continuent à redoubler d'efforts pour retrouver les 39 autres. La justice ivoirienne a condamné mardi 13 personnes impliquées dans un trafic de cocaïne. Ces personnes de différentes nationalités sont condamnées à 10 ans de prison. Chacune doit également payer 50 millions de francs CFA d'amende. 4 personnes ont été retrouvées après l'effondrement d'un immeuble à Nairobi, la capitale du Kenya. C'était le mardi 6 mai à 22h de Nairobi, 19h GMT, que l'immeuble s'est effondré. Dans son communiqué, un responsable local annonce que 4 personnes, dont 3 enfants, sont coincées sous les décombres. 10 personnes avaient été légèrement blessées, a annoncé la Croix-Rouge kenyane qui était sur place pour secourir ses victimes. Du 10 au 12 mai se tiendra à Dakar, au Sénégal, l'école de synodalité, un séminaire qui vise à faire vivre aux églises locales ce qui a été dit lors de la première session du synode sur la synodalité. La rencontre a aussi pour objectif de préparer les participants et les églises locales à la seconde session du synode qui se tiendra au mois d'octobre. Sœur Anne-Béatrice Faye est l'organisatrice de l'école de synodalité et nous en parle.
Nous avons plusieurs activités, notamment le webinaire avec des thématiques différentes, mais à partir toujours du rapport de synthèse. Et ces différents thèmes, des intervenants en général qui ont participé à l'Assemblée synodale et d'autres selon leurs compétences et le thème. Et jusque-là, nous avons organisé 5 webinaires et un autre sous forme de forum. À la suite de la proposition de la secrétaire du synode qui proposait d'instaurer dans l'Église des forums permanents. Et nous avons intégré cette dimension au niveau de l'école de synodalité. Et la dernière qu'on a eue, c'était un forum sur justement ce qu'est la synodalité pour les uns et les autres, pour mieux comprendre et rentrer dans le processus de l'Église aujourd'hui.
Donc, nous pouvons comprendre que l'école des synodalités consiste donc à ces séminaires qui fassent mieux comprendre et mieux saisir ce qu'est le processus synodal.
Oui, oui. Alors, en fait, l'idée que j'ai eue après avoir participé à l'Assemblée de l'automne dernier, c'est de me dire comment faire pour que mon peuple, c'est-à-dire mon église locale, puisse faire l'expérience que j'ai eu la grâce de faire au niveau de l'église universelle. C'était pas évident et il fallait créer un espace. Et c'est cet espace aujourd'hui qui a donné lieu à l'école de synodalité. Et donc, dans un premier temps, c'était pour avoir un espace pour réceptionner le rapport de synthèse. Et petit à petit, nous avons intégré cette dimension du processus synodal avec la méthode de la conversation dans l'esprit. Et on a eu des espaces, notamment au niveau des doyennés ici à Dakar, pour faire vivre ce processus et surtout faire l'expérience de l'écoute mutuelle. Et à partir de cette écoute, poser les questions que le peuple de Dieu se pose aujourd'hui à travers les églises locales. Et c'est vraiment un événement important qui nous permet petit à petit de vivre, de faire l'expérience de ce que l'Église vit aujourd'hui.
Il s'agit donc de faire vivre aux églises locales, aux églises africaines, ce qui a été vécu au niveau de l'Église universelle.
Oui, c'est ça, exactement. Et je pense que d'après les échos et l'intérêt que j'ai rencontré, les gens attendent vraiment de pouvoir expérimenter cette dimension de l'écoute, et l'écoute mutuelle, l'écoute des grandes questions que se pose aujourd'hui l'Afrique, l'écoute des grandes questions que se pose le monde aujourd'hui et l'Église aujourd'hui.
Sœur Anne-Béatrice Faye, d'origine sénégalaise, religieuse de l'Immaculée Conception de Castres, professeure de philosophie, organisatrice de l'école de synodalité, des propos recueillis par Stanislas Kambash.
Invité du jour.
Un séminaire organisé les 6 et 7 mai par le Dicastère pour la culture et l'éducation à Rome a rassemblé des experts en théologie et en philosophie. Le but de cette rencontre était de repenser le parcours des formations des futurs prêtres afin de répondre aux défis de notre temps. C'est ce que nous explique l'abbé Steve Gaston Bobongo, doyen de la faculté de philosophie de l'Université catholique d'Afrique centrale, venu de Yaoundé au Cameroun pour y prendre part.
Dans le contexte actuel où il y a une grande concurrence universitaire, où il y a une systématisation des programmes universitaires européens avec le système LMD, où il y a comme des problématiques qui surgissent au niveau de l'humain, les problématiques du genre, les problématiques de la violence et qu'en sort, les problématiques qui concernent le peuple de Dieu en contexte catholique. Alors, comment réarticuler, comment retravailler, comment réorganiser un peu les études de théologie? Alors, cette réorganisation, cette réarticulation a des implications fondamentales. Celle qui concerne, par exemple, le rapport entre la philosophie et la théologie. Vous savez que depuis des siècles, il y a ce qu'on appelle le rapport d'ancillarité, c'est-à-dire la philosophie est servante de la théologie. Il serait peut-être intéressant de sursumer ce rapport, de transcender cette façon de voir. Quel serait donc l'apport aujourd'hui, non pas de la philosophie, mais des philosophies dans la reconfiguration des études théologiques? Quel type de personnalité nous voulons avoir à la fin d'un parcours de théologie? Donc ce sont toutes ces questions qui nous ont occupés pendant ce séminaire.
Merci Père pour toutes ces précisions. Dans une Afrique pleine de défis, notamment politiques et sécuritaires, quelles perspectives la philosophie peut-elle proposer?
C'est une question délicate, importante, une question déterminante, même décisive pour l'aujourd'hui de l'Afrique. Et il faut pas se poser ou se placer dans ce qu'on peut dire l'aide philosophique ou la contribution philosophique à l'Afrique à partir du lieu politique seulement. Il y a d'abord un lieu, on pourrait dire, anthropologique ou ontosymbolique, puisque l'Africain est à la croisée des chemins, est à la quête de son identité, à la quête de son positionnement non négatif dans le système monde. Donc la philosophie est définie dans l'une des orientations comme étant un lieu de compréhension de l'être monde. Mais la philosophie a aussi des rôles, on pourrait dire, ou une fonctionnalité, une opérativité au plan politique, au plan social, par rapport à toutes les questions que vivent les Africains dans les rapports aux politiques proprement, vous voyez, les guerres, les catastrophes, on pourrait dire, les révoltes, vous voyez, on parle aujourd'hui, par exemple, de la prééminence des coups d'État. Donc le philosophe vient éclairer un peu la vie de l'homme, vient créer la vie de l'Africain pour que les Africains puissent avoir une certaine compréhension, non plus de l'homme seulement, mais de la vie de l'homme en société, des relations sociales, de ce qui est important pour construire les nations et les sociétés africaines. Au plan sécuritaire, au plan militaire, il y a une certaine façon de penser la sécurité, de vivre la sécurité, qui est issue d'une vision qui pose la préservation de l'humain, c'est celle-là que la philosophie va apporter. Donc, il y a beaucoup d'enjeux de perspectives, je pourrais dire, philosophico-politiques aujourd'hui, doivent apporter, aider les sociétés africaines à prendre conscience des défis et à travailler dans le domaine de l'éducation, de la formation, pour que des difficultés soient transcendées. Et c'est ça aussi le rôle de la philosophie.
La faculté de philosophie dont vous avez la charge forme aussi bien les jeunes prêtres en formation que des religieuses et laïques. Comment conciliez-vous la formation dans ce sens pour aider aussi bien ces jeunes qui se préparent à être des prêtres et laïcs pour prendre en charge la société africaine de demain?
Très bonne question. Ce sont des illuminations. Aujourd'hui, il faut mettre en exergue ce qu'on appelle une philosophie de l'innovation. Parce que les paradigmes anciens mettait uniquement la métaphysique au centre de la philosophie. Et c'est effectivement, la métaphysique est de l'ordre des fondements. Mais aujourd'hui, les défis de la mondialisation nous donnent à penser autrement la formation philosophique, c'est-à-dire la constitution de la personne épistémologique. Les défis du développement africain, mais les défis aussi de la sacerdotalité, les défis, on pourrait dire, intra-ecclésiastiques et même intra-ecclésiaux, nous donnent donc de penser une formation qui allie les anciens paradigmes et les nouveaux paradigmes. Dans les contenus de formation, il faut, on pourrait dire, procéder à une réarticulation innovante. Aujourd'hui, on ne peut plus faire pour des religieux une philosophie typiquement métaphysique. Il faut donc créer des parcours de philosophie et santé, philosophie et droit, philosophie et management, puisqu'il y a des questions qui s'opposent dans notre société sur le management. La philosophie va prendre en charge ces éléments.
Abbé Steve Gaston Bobongo est doyen de la faculté de philosophie de l'Université catholique d'Afrique centrale avec siège à Yaoundé au Cameroun. Il était interrogé par Christian Losambé.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boabualo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus. Maria, Maria,